Bonjour, c'est Benjamin Muller, épisode important du podcast des maternelles aujourd'hui. Épisode important, je l'ai dit, pourquoi ? Parce qu'on parle du postpartum, ce sujet si longtemps tu, que l'on a si longtemps caché sous le tapis. Ça y est, enfin, les témoignages se libèrent et de nombreuses jeunes mères le disent. Oui, le postpartum, ça peut être très galère, on va pas se mentir, surtout dans cette émission. Je le dis en rigolant, mais bien sûr, c'est pas drôle du tout. Donc aujourd'hui, un épisode qui va faire du bien à tout le monde. On va se donner plein de bons conseils en écoutant tout d'abord le témoignage de Sophie, qui va nous raconter son postpartum. Et puis nous serons après avec une sage-femme qui va nous donner plein de bons conseils, mais pas que des conseils d'ailleurs, nous aider à comprendre ce qui se joue dans le corps, mais surtout dans la tête des femmes qui viennent de devenir maman. Allez, c'est parti!
Bon, je sais que quand on est en direct le matin sur France 2, qu'on n'a pas l'habitude, bon, on n'est pas hyper à l'aise, hein, donc je vous sais un peu tendu, mais vous savez, moi aussi, je le suis. Donc entre filles stressées, on va y arriver. Vous avez deux enfants, Sophie, comme beaucoup de femmes qui n'osent pas en parler, vous avez très mal vécu les mois qui ont suivi la naissance de votre aîné. C'est vrai que la dépression postpartum, c'est un sujet tabou. On essaie d'en parler beaucoup dans la maison des maternelles, en tout cas le plus souvent possible. Mais la maternité, c'est censé être un moment extraordinaire, etc. Donc forcément, on a du mal à se confier. Alors, vous vous êtes inspirée de cette expérience douloureuse pour écrire La Remplaçante, hein, qu'on va voir, que vous allez voir sur votre écran. C'est un récit de reconstruction, de résilience, parce que bah, vous êtes debout aujourd'hui, épanouie, heureuse. Donc, c'est le message, évidemment, qu'il faut d'ores et déjà passer. Déjà, comment est-ce que vous avez vécu votre grossesse et votre accouchement ? Est-ce que vous étiez sereine à cette période-là ?
Grossesse super, j'étais très sereine, j'avais très envie de vivre l'accouchement intensément, de rencontrer mon bébé. Vraiment le moral au beau fixe pendant toute la grossesse. Mm-hmm. Un accouchement qui ne s'est pas exactement passé comme prévu, parce que j'étais suivie en maison de naissance, je me préparais à un accouchement physiologique sans péridurale, avec juste la sage-femme qui m'avait accompagnée. Et en fait, mon bébé était en siège, donc j'ai su quelques semaines avant le terme que je ne pourrais pas accoucher à la maison de naissance, mais côté maternité. Et après un déclenchement spontané, quand je suis arrivée à la maternité, il s'est avéré que mon bébé était en siège défléchi. Il avait la tête en arrière, ce qui interdisait la sortie par voie basse. Oui. Donc on m'a envoyée au bloc. Et donc, je m'étais préparée à quelque chose.
Ah, j'ai juste un problème de micro. Et on a un petit problème de micro. Je vais faire un truc, vous me permettez. Oui. Je vais faire le... Regardez. Je vais faire le... Hop, l'ingénieur du son. Et voilà. C'est tout. Comme ça, on vous entend mieux. Parce que ça me turlupinait. Pardon, excusez-moi, Sophie.
Donc, je me suis préparée à quelque chose de très, très peu médicalisé. Et l'accouchement s'est passé au bloc opératoire.
Ouais, donc déjà, il y a quand même une première... Un premier choc, parce que quand on s'est fait toute une idée de son accouchement, qu'il était le plus physio possible et qu'on se retrouve au bloc opératoire, quand même déjà, c'est la débandade, quoi.
Et surtout, ça va très vite. Mmh. J'avais eu 9 mois pour me préparer, comme vous disiez, à cet accouchement physio. Et là, en 10 minutes, il a fallu que je fasse reboot dans ma tête pour me dire, en fait, non, ça va être une césarienne, chose à laquelle je ne m'étais pas du tout préparée pendant ma grossesse. Évidemment, je savais que ça existait, mais c'était pas l'issue que j'envisageais pour moi. Et en 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas possible, c'est trop court. La communication que j'avais mis en place avec mon bébé pendant ma grossesse s'est coupée à ce moment-là, parce que j'étais très préoccupée par moi, ce qu'on allait me faire, ce qu'on allait faire à mon corps. Et j'avais très peur qu'on fasse naître mon bébé sans la présence de mon conjoint, que ça aille tellement vite.
Il a pu être là, finalement ?
Il a pu être là, mais je n'ai cessé de demander à ce qu'on l'attende, parce que ça allait très vite et j'avais peur qu'il n'assiste pas à la naissance, et ça aurait été encore radicalement différent de ce qu'on avait préparé ensemble. Donc, en fait, j'étais préoccupée par tout un tas de considérations qui m'ont... éloignée en fait de mon ça. Bébé avec qui vraiment je communiquais jusqu'à ce que j'arrive dans la maternité.
Alors vous êtes restée 5 jours, c'est d'ailleurs la moyenne hein, après une césarienne, à la maternité. Comment ça s'est passé ces 5 jours? Vous étiez dans quel état?
Eh bien, je ne me suis pas levée pendant, je pense, la première moitié du séjour à la maternité. J'avais le changement de position, même dans le lit, était très difficile. Je me sentais vraiment empêchée dans mes mouvements.
Qu'est-ce qui vous a le plus surprise, en fait, quand vous après l'accouchement? Qu'est-ce qui a été le plus difficile?
Ah bah, moi, je ne m'attendais pas à me retrouver immobilisée au lit, à ne pas pouvoir changer mon bébé, par exemple. À ce moment-là, je me suis rendu compte de à quel point une maman qui a eu son bébé par césarienne ne pouvait pas s'en occuper seule. Il y avait mon conjoint qui était là. Je ne pouvais clairement pas sortir du lit. Je prenais ce qui était à ma disposition dans le pilulier, et comme on ne me demandait pas comment était ma douleur et que moi je n'osais pas l'exprimer, c'était pas du tout suffisant. Et toutes ces fonctions qui avaient été interrompues par la césarienne, moi j'avais l'impression qu'il allait me falloir des semaines ou des mois pour les récupérer, que ce soit aller aux toilettes ou que ce soit marcher, en fait. Mmh. Ça me paraissait des épreuves insurmontables.
Et psychologiquement, comment est-ce que vous avez vécu le fait de ne pas accoucher comme vous le vouliez, de ne pas pouvoir vous occuper de votre bébé? Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, parce que ça part souvent de là, bah, je suis pas capable, quoi?
Ah ben, j'avais un très très fort sentiment d'échec, parce que du coup ça s'était passé très vite, alors que moi je suis arrivée à la maternité en me préparant pour une nuit avec des contractions qui continuaient et quelque chose de très long. Donc une sensation aussi, un sentiment en plus de l'échec, de presque de trahison, de ne pas avoir vécu la dernière étape de
Vous
cette grossesse.
Vous avez trahi votre bébé?
Oui, et puis trahi la promesse que moi je m'étais faite, que trahi tout ce que même j'avais décidé avec mon conjoint. Clairement, je n'avais pas réussi, quoi.
Alors ensuite, vous rentrez à la maison. Comment ça s'est passé?
C'était le moment où les hormones étaient assez hauts. Donc, dans ma tête, c'était vraiment les montagnes russes. Le changement de position était toujours très difficile. Donc, j'ai laissé faire mon conjoint, qui avait déjà, lui, eu deux bébés, donc qui savait faire. Moi, je ne me sentais pas sûre de moi, parce que, probablement parce que comme je n'avais pas eu la sensation de réussir mon accouchement, et ben l'instinct maternel ne m'est pas tombé dessus, en fait, dans la chambre de la maternité. Lui, il savait très bien gérer. Donc, je lui ai confié, en fait, les rênes.
Vous avez dit, je ne suis pas à la hauteur, au mieux que je confie, quoi. Et vous avez décidé de l'allaiter ou pas?
Oui, je l'ai allaité. Ce n'était pas formidable. J'ai eu recours à un tire-lait et du coup, j'ai trouvé ça atroce. Parce que dans une pièce, mon conjoint donnait à mon bébé des biberons de mon lait que j'avais tiré la fois d'avant. Mmh. Et moi, dans une autre pièce, je tirais mon lait. Donc, on était de toute façon réveillés tous les deux. Mais moi, je n'avais pas du tout ce moment de complicité qui, peut-être, m'aurait permis de tisser plus facilement un lien avec mon bébé. Les moments d'alimentation de l'enfant, en fait, ça avait beau être mon lait, c'était pas, la plupart du temps, ce n'était pas avec moi.
Du coup, vous regrettiez cet état de femme enceinte et votre corps aussi de femme enceinte?
Alors oui, parce que j'ai adoré être enceinte. J'ai pris 35 kilos parce que j'avais envie que ça se voie. J'avais un ventre qui était énorme, avec beaucoup, beaucoup de liquide amniotique. Et puis, je me sentais surpuissante. Je me sentais invincible. J'étais vraiment très confiante en l'avenir, en le monde, en moi, en mon couple, en ma future famille. Et ça, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et il reste le ventre. Qui ne part pas
et
du jour au lendemain, et les kilos. Mais du coup, quand ça s'arrête, on ne retrouve pas. Moi, je n'ai pas retrouvé pour autant le corps d'avant, tout ça. Et pendant des mois, j'étais toujours dans un corps qui était assez proche du corps que j'avais pendant la grossesse. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout.
Et on n'a plus le sentiment d'épanouissement et de surpuissance. Non. Alors, à quel moment est-ce que vous avez vraiment réalisé que vous n'alliez pas bien? Est-ce que vous êtes arrêté à un moment en disant, bon, là, il y a un truc qui ne va pas?
Oui, je sais que quand on est allé faire la visite des 15 jours de l'enfant chez le pédiatre, je m'en souviens parce que je sais que c'était la visite des 15 jours, j'ai vu mon conjoint qui portait le bébé et je me suis dit, qui répondait aussi aux questions du pédiatre, et je me suis dit, en fait, moi, si j'étais pas là, ça changerait rien. Ils se débrouillent très bien tous les deux. Le bébé s'entend visiblement très bien avec son papa, le papa sait faire. Moi, en fait, j'ai rien à faire dans cette histoire-là. Mon conjoint l'a senti, ça. On n'en a pas du tout parlé sur le moment, on a pu en parler seulement après. Mais il m'a vu m'effacer. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai eu des idées très sombres, que je n'ai pas réussi à qualifier sur le moment et surtout pas à partager avec...
Ça a duré combien de temps, cet état?
Quelques mois.
Quand même.
Ouais.
Et le papa vous a soutenu, alors?
le papa me soutenait en étant là et en s'impliquant avec l'enfant, en ne me demandant pas de faire ce que visiblement j'arrivais pas à faire, en ne me reprochant rien. Mais du coup, il y a aussi une distance qui s'est installée entre nous à ce moment-là, parce que moi, je ne lui parlais pas de ce que je vivais à l'intérieur et il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait.
Alors, en préparant cette émission, vous nous avez parlé de phobie d'impulsion. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, j'ai découvert le terme a posteriori. C'est le fait d'avoir des idées très noires vis-à-vis de son enfant. Et quand j'ai eu mon aîné, j'habitais au 6e étage et je ressentais physiquement très violemment une sensation de vertige quand je m'approchais des fenêtres. Parce que je me disais, ce bébé, il est si vulnérable qu'en fait, il peut passer par la fenêtre et je peux en être coupable. Évidemment, je n'ai jamais fait le moindre geste qui ressemblait à ça, mais je me sentais vaciller à chaque
vous
fois
avez
que
plus le contrôle, en fait.
J'approchais des fenêtres. Exactement.
Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message aux femmes ? Comment on s'en sort ? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce qu'il y a forcément beaucoup, beaucoup de femmes qui sont peut-être pas à des degrés aussi élevés, mais qui sont en postpartum, en train de se dire « je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai pas l'instinct maternel, j'arrive pas à créer le lien ». Enfin, il peut se passer mille choses. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes-là ?
Il n'y a rien à réussir dans cette histoire. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, on est la meilleure mère possible pour son bébé, puisqu'il était dans notre ventre à nous. Et puis, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Si je refaisais ça... Maintenant, j'en parlerai plus ouvertement à mon conjoint et à des tiers pour que soit moi, je puisse aller en parler à quelqu'un, soit que lui fasse appel à quelqu'un qui vienne m'aider, en fait. Se dire que c'est pas normal d'avoir des idées sombres et que dans ces cas-là, il faut aller chercher de l'aide, quoi.
Oui, mais ça, je crois que c'est le plus important parce qu'en fait, on n'ose pas parce qu'on est censé être dans le moment le plus heureux de sa vie. Et je crois que c'est là où se situe le truc qui peut nous faire vaciller. On est censé être très heureuse. Et quand on ne l'est pas, on a du coup encore moins de courage de le dire. Depuis que vous avez eu un deuxième enfant, ça s'est bien passé.
Très bien.
Est-ce que vous avez pu anticiper, j'imagine ?
Oui, parce que là, du coup, je me suis dit, je vais tout faire pour ne pas vivre ça une seconde fois. Et j'en ai parlé à mon conjoint aussi. Donc, on était deux hyper armés, hyper vigilants. On s'est informés. Et puis aussi, on a fait plus attention à mon sommeil, à mes humeurs. Et ça s'est très bien passé.
Rachel Halimi, bonjour. Merci d'être sur le plateau des maternelles. Vous êtes sage-femme libérale à Paris. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est le postpartum ? Parce qu'on dit ce mot à tout va, mais enfin, quand on ne l'a pas vécu, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire.
Alors, le postpartum, c'est cette période charnière et singulière de notre vie de femme qui concerne l'après-accouchement et qui débute juste avec la fin de l'accouchement, la fin de la délivrance qui correspond à l'expulsion du placenta et dont la durée, finalement, est propre à chaque femme. Je dirais que c'est minimum 40 jours, mais ça peut être beaucoup plus long pour certaines femmes, 6 mois, 1 an. Et on parle également de suite de couches ou de quatrième trimestre de la grossesse pour définir ce temps durant lequel la femme va vivre vraiment des transformations corporelles, identitaires et psychiques profondes.
Question envoyée pour vous en vidéo par Gabrielle.
Je suis Gabrielle, j'ai 32 ans, je suis la maman de la petite Garance qui a 7 mois. J'avais une question concernant les baby blues. J'en ai fait un au sortir de la maternité et un mois après la reprise de mon travail. Garance avait 4 mois à l'époque. Je voulais savoir quelle était la différence entre le baby blues et la dépression du postpartum. Merci à tous, bonne journée.
Alors, le baby blues et la dépression du postpartum, c'est deux états psychologiques qui sont en général confondus, alors que ça n'a rien à voir, dans le sens où le baby blues, c'est un état complètement normal, qui est fréquent, puisque ça touche à peu près 80% des femmes, et qui survient tôt après l'accouchement. C'est généralement 2-3 jours, voire jusqu'à 15 jours après l'accouchement. Et c'est important de rappeler aux femmes que c'est un état qui va être passager, transitoire. C'est une sorte de mini-déprime qui dure quelques jours et on dit grand maximum 15 jours, 3 semaines.
D'accord, c'est important de dire, c'est pas parce que vous avez cette mini-déprime que vous allez tomber dans une grande dépression du postpartum, comme le témoignage
exactement.
Que l'on vient d'entendre.
Il faut bien rappeler que c'est passager, parce que la dépression du postpartum, je reparlerai après, mais c'est un état qui s'installe. Et la femme va être traversée par des émotions très contradictoires liées à la chute hormonale, hein, bien sûr. Et elle est traversée, on parle d'ascenseur émotionnel, parce qu'elle va passer du rire aux larmes en 2 secondes. Et ça, c'est important de rappeler que c'est normal, que c'est fréquent. Même les psychiatres s'accordent à dire que c'est plutôt sain et que c'est comme une crise identitaire, un passage dans notre devenir mère. Et puis, la dépression du postpartum, c'est très tabou et c'est souvent méconnue malheureusement à cause de l'idéalisation de la maternité qui, voilà, qui est très ancrée, hein, qui je pense entraîne un déni collectif des soignants, de l'entourage de la maman. Et là, c'est un état qui s'installe et on constate deux grands pics. Il y a un pic à peu près 2 à 4 mois après l'accouchement et un autre pic à 6 mois après l'accouchement. Et la femme, là, va traverser les symptômes classiques de la dépression. Donc, ça va être de une immense fatigue, de l'anxiété majeure profonde, un sentiment de vulnérabilité très marqué, associé à des symptômes plus spécifiques du postpartum. Donc, un rejet du bébé, un sentiment, comme Sophie, d'incapacité à s'occuper de son bébé. Et ça peut être aussi des idées suicidaires. Et je pense que c'est important de rappeler aux femmes qu'il n'y a pas de honte.
Voilà, il y a une culpabilité fait de tout ça.
Parce que souvent, elles sont en effet pétries de culpabilité et elles n'osent pas exprimer ce mal-être. Et finalement, elles s'isolent. Au lieu d'aller solliciter de l'aide, il faut oser demander de l'aide parce que c'est une maladie qui finalement se soigne très bien. Et on sait que plus elle va être prise en charge tôt, moins il y aura de répercussions sur la santé psychique de la mère et du bébé. Donc, j'invite vraiment les mères à ne pas s'isoler, à demander de l'aide si elles voient que cet état de mal-être s'installe sur la durée.
Alors justement, Elisa vous demande s'il y a des moyens de se préparer en amont au postpartum pour l'éviter.
Tout à fait, c'est une très bonne question parce que souvent en France, on attend que la maladie s'installe au lieu de la prévenir. Et je pense que la dépression du postpartum, c'est finalement quelque chose qui se prévient très bien. Déjà, je pense que c'est important que pendant la grossesse, les mamans reçoivent une information de qualité sur les difficultés courantes et banales du postpartum, parce que souvent, c'est quand on ne connaît pas ce qui nous attend aussi qu'on vit mal les choses.
Mais à qui on demande ça, donc ?
Ça serait bien que, par exemple, lors des séances de préparation à la naissance, à la parentalité, j'insiste bien, parce que c'est aussi à la parentalité, les sages-femmes délivrent une séance spécifique sur cette thématique du postpartum et des suites de couches.
Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a, et c'est vraiment le témoignage de Sophie, c'est très clair, il y a un fantasme, il y a des envies qui sont bien légitimes, et forcément, si on n'est pas au courant qu'on peut avoir une césarienne, un bébé en siège, une cicatrice qui fait mal, etc. Ben c'est ça qui fait qu'on s'enfonce.
Bien sûr.
Si on a fait une dépression postpartum au premier enfant, est-ce qu'on en fera forcément une au second ?
Alors, on est dans un terrain quand même plus de vulnérabilité, en effet. Il y a plus un risque, mais pas forcément, heureusement. À chaque fois, on repart sur une nouvelle aventure. Donc, on peut rassurer cette maman et lui dire à chaque fois... C'est une nouvelle histoire.
Et surtout, moi, j'ai l'impression qu'on est plus sensibilisé au sujet, que l'entourage l'est aussi, que le papa, le coparent, les parents, etc.
Tout à fait. L'entourage, du coup, va être plus à l'écoute, plus bienveillant. Et du coup, en effet, ça permet de prévenir cette dépression. Et puis souvent, du coup, les femmes sont déjà suivies. Et donc, elles ont déjà ce contact avec un psychologue ou un psychiatre de ville qu'elles vont pouvoir revoir régulièrement. Et du coup, en plus, s'il y a des difficultés psychiques en début de grossesse, ça va être repéré plus vite.
En fait, je remarque quand même que sans aller jusqu'à la dépression du postpartum, en fait, tout ça part d'un fantasme qu'on a, qui est un fantasme très certainement nécessaire pendant la grossesse où on s'imagine avec son bébé. Et je pense que c'est important aussi de construire ces images mentales. Mais parfois, c'est tellement idéal que la réalité nous rattrape. Parce qu'il faut le dire, c'est difficile quand même. Ça réveille des choses chez toutes les femmes.
Tout à fait, je pense que c'est essentiel de ne pas vendre du rêve aux femmes et de dire effet aux femmes, c'est beaucoup de bonheur quand on accueille un bébé, mais pas que, et que vous allez traverser des grosses difficultés corporelles, parce que c'est quand même tout un grand changement corporel, et aussi d'ordre psychologique, et bien de les informer pour qu'elles puissent bien vivre cet état. Mmh. Et en effet, clairement, il y a une idéalisation de la maternité qui est très, très ancrée dans l'imaginaire
collectif.
Mais
il n'y a pas que ça, il y a aussi hormonal. C'est aussi hormonal, je veux dire, c'est aussi dans le corps que les choses se jouent.
Tout à fait. Après l'accouchement, ça, c'est pour ça que le baby blues, c'est physiologique, hein, c'est qu'il y a une chute hormonale, et vous savez que les femmes, malheureusement, on est quand même contraintes et sujettes à nos hormones, à ces grands bouleversements hormonaux. Et oui, après, il y a une chute hormonale qui explique...
Alors que nous, on est hormonalement parlant, Karim, on est toujours au top.
Parlez pour vous.
Testostérone au taquet, les gars.
Toute la journée, du matin au soir.
Alors, Éléonore nous dit, dans le cas de Sophie, on sent bien que ça n'avait pas été préparé, le sujet du postpartum n'avait pas été préparé avant, pendant les cours de préparation à l'accouchement. Alors, elle vous demande si c'est normal. Est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui qu'avant ? Comment ça se passe à ce niveau-là dans les cours ?
Alors, c'est vrai qu'il y a, certes, moi, dans mes séances de préparation à la naissance, il y a une thématique dédiée à les suites de couches.
Depuis toujours ou c'est récent ?
Depuis toujours, voilà. Et après, je sais que, aussi, les patientes, les femmes, sont souvent, quand elles viennent nous voir lors de l'entretien prénatal précoce, qui est la première séance des 8 séances de préparation à la naissance, quand on leur demande quelles sont vos attentes, souvent elles sont vraiment centrées sur le moment de l'accouchement.
Ah bah oui, oui.
Et elles oublient cet après. Moi, j'y attendais. Attention, l'accouchement, c'est un moment T, mais avec un bébé, c'est un CDI qui vous attend.
Exactement. Ouais.
Donc, il faut se préparer à l'après. Et ça, c'est très important. Alors oui, je pense que on en parle de plus en plus, même si ça reste quand même très tabou, notamment depuis 2020. Il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux hein, suite à cette publicité qui avait été censurée aux Oscars sur les serviettes hygiéniques hein, du postpartum. Et on y voyait juste la réalité du corps d'une femme qui venait d'accoucher. Il n'y avait rien de cru, d'obscène ou de choquant. Hein.
C'est la réalité.
Voilà. Mais visiblement, c'était une vision trop éloignée des clichés idéalisés et faussés. Et depuis, je trouve cette publicité, il y a un buzz sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, les podcasts. Et il y a même des patients, des moments, qui viennent me dire mais moi, ça m'effraie le postpartum. C'est terrible tout ce que j'entends. Donc, c'est vrai que c'est important d'informer. Il ne faut pas non plus... dresser un tableau noir.
Non, faut pas angoisser les femmes. En même temps, du coup, elles seront agréablement surprises.
Voilà, moi, je pense qu'il faut toujours préparer au pire, parce qu'après, on se dit, oh, finalement, moi, ça
oui,
va,
c'est c'était ça. Quoi. Moi, je suis super, en fait, je m'occupe super bien de mon bébé, moi, j'ai pas tous les trucs des autres. Mais est-ce que vous sentez, du coup, pendant les cours de préparation à l'accouchement, que certaines ne veulent pas, justement, voir plus loin que l'accouchement?
Oui, et je pense qu'il faut que nous, les sages-femmes, on les y amène à voir plus loin, en effet. Souvent, il y a l'accouchement, et puis après, ça finit l'histoire. Alors qu'en fait, non, l'accouchement...
C'est le début
d'une autre histoire.
Question de Suzanne, qui vous demande, quand reprendre? J'imagine qu'elle parle de sexualité. La sensation, les douleurs, quels sont vos principaux conseils à ce sujet?
Alors là, c'est vraiment propre à chaque femme, il n'y a pas de normes. Et c'est très important que la femme reste à l'écoute de son ressenti corporel et de ses propres envies à elle, et non pas de ne pas céder à cette injonction du devoir conjugal, on parle aussi de charge sexuelle. Et après, il y a aussi une question de bon sens, c'est-à-dire que si la femme, elle saigne, on va attendre la fin des saignements, que le col de l'utérus se referme bien, et puis si elle a des points de suture au niveau du périnée, voilà, il faut attendre que la cicatrice se résorbe bien, qu'il y ait une bonne cicatrisation pour éviter les complications, notamment les risques de désunion, c'est-à-dire des ruptures de points de suture. Donc voilà, il y a...
Alors pour lui répondre, parce qu'on peut imaginer qu'elle attend...
Je dirais qu'il y a des femmes, la cicatrisation de l'épisiotomie va se faire en 15 jours, mais c'est quand même très rare. Donc la plupart des femmes, elles attendent au moins un mois.
Ouais.
Et on dit que la reprise d'une sexualité, en moyenne, c'est 3 mois. Mais il y a vraiment une très grande amplitude, ça va entre 15 jours et 2 ans, voire plus. Quoi.
Et surtout, la sexualité, c'est pas simplement... La pénétration, il y a plein de choses.
Tout à fait, exactement. Faut... C'est-à-dire que souvent la
vous
vie sexuelle.
À quoi, Karine ? Non, pardon.
Réapprivoiser le contact.
Mais vous faites bien de le dire, moi, je trouve. Ouais.
Tout à fait. Souvent, la sexualité, on se résume à l'acte de pénétration. Et c'est important de rappeler qu'il n'y a pas la sexualité pénétrative. Moi, j'appelle ça la méthode tant qu'à vous. Tendresse, câlin, douceur, beaucoup de câlins.
C'est beau, ça, tant qu'à c'est bien.
Hein, voilà. Et c'est vrai que, voilà, et beaucoup de communication aussi dans le couple, tant que la femme, en effet, se rapproprie son corps du postpartum.
Alors, Marine vous dit, c'est bien de détecter les signes d'une dépression postpartum, mais concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour aider les mamans? Quel professionnel interpeller?
C'est une très bonne question, parce que je trouve que malheureusement, et ça, c'est notre combat à nous, les sages-femmes, on est en grève d'ailleurs demain, je le rappelle. On trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'aide en postpartum pour les femmes. Voilà. Dans certains pays, il y a des systèmes de soins ambulatoires qui vont être mis en place, où les femmes vont bénéficier de massages, de plein de choses. Donc moi, je conseille aux femmes de vraiment prendre soin du corps après l'accouchement, parce qu'il a quand même vécu des choses très intenses. Et donc, du coup, plutôt que d'acheter...
Alors, prendre soin du corps, oui, mais comment? Parce qu'on a... Généralement, on n'a pas le temps, quoi.
Eh bien, je pense que c'est là où... Bon, le papa, voilà, c'est un acteur indispensable de cette aventure. C'est un coéquipier. Il faut laisser le bébé au papa, à la famille, à des amis, et dire, voilà, tu t'en occupes 3 heures, c'est un temps pour moi, où j'ai besoin de ce temps pour prendre soin de moi, et se faire offrir, plutôt que se faire offrir des doudous, des trucs qui servent à rien, des massages, des spas. Et dans certains pays, dans certaines cultures, les femmes sont massées tous les jours, en fait. Et je pense que c'est aussi important de faire la rééducation périnéale après l'accouchement et la rééducation abdominale pour reconsolider aussi ce corps qui a quand même souffert. Quoi.
Et donc prendre soin de soi, ça aiderait
Prendre soin de soi, voilà. Et puis après, je pense qu'il faut oser demander de l'aide. Et souvent, on oublie, quand on est maman, on s'oublie aux dépens de son bébé. Il ne faut pas oublier ses besoins primaires, notamment le besoin primaire principal, c'est le sommeil. On sait que bien dormir, c'est indispensable à une bonne santé mentale. Et j'invite souvent les mamans à dire, voilà, c'est quelques heures dans la journée, 3-4 heures. Pareil, vous laissez le bébé au papa ou à quelqu'un de confiance. Et ces pauses salvatrices, elles vont être indispensables pour votre bien-être. Et puis, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Le congé maternité, clairement, C'est quand même un scandale absolu, 2 mois et demi. Hein. On sait que le postpartum, c'est au moins 3 mois. Donc, je pense que là, il y a vraiment un combat à mener sur le congé maternité. Et voilà, le père, moi, voilà, je suis pro-papa. Je pense que la place du père, elle est indispensable dans toute cette aventure. On parlait d'informer les mamans sur les difficultés courantes du postpartum, mais je crois que c'est aussi important d'informer les pères pour qu'ils puissent être un vrai soutien après.
Ouais. Oui, parce que vous disiez, il faut que la maman aille voir le papa en lui disant « Tiens, garde l'enfant pendant 3 heures », l'idéal, ce ne serait pas ça. Ce serait que le père de lui-même...
Exactement.
C'est toute la notion de,
enfin,
le père n'est pas là pour aider la mère, c'est les parents qui ont l'enfant. C'est ça qu'il faut changer les mentalités.
Tout à fait.
J'ai l'impression que ça évolue un peu, moi.
Ça évolue. Moi, je trouve que c'est vrai qu'on a des super papas maintenant qui sont très investis et qui ont conscience, en effet, que la femme a besoin de repos après l'accouchement. Oui.
Voilà, merci beaucoup à Sophie pour son témoignage et merci à Rachel Halimi pour tous ces bons conseils sur ce sujet si important. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. D'ici là, eh ben, bonne journée tout le monde. Ciao.